Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnel pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Bonjour Monsieur Renaud.
Bonjour Monsieur Flobinus.
Oui, c'est vrai. Ah, vous m'appelez par mon nom, ça fait bizarre.
Bah oui, vous m'appelez par mon nom. Alors, d'habitude, c'est bonjour Vincent.
Ah oui, vous, c'est un prêté pour un rendu.
C'est un prêté pour un. Voilà. On dit ça comme ça. Je connaissais l'expression, mais je ne savais pas la retrouver.
Bon, en tout cas,
non,
merci.
Mais ça va.
Bonjour Vincent, ça va?
Non, ça va pas.
Qu'est-ce qui se passe?
J'ai mal à l'épaule.
Ah oui, oh là là, docteur Vincent Renaud qui traîne son épaule.
J'ai
là.
Une déchirure à l'épaule et j'ai mal.
C'est quoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Ah ben j'ai, voilà, une connerie. Quand vous arrivez, vous atterrissez en avion et qu'il y a tout le monde qui vous presse parce qu'ils sont déjà debout, que l'avion n'est pas atterri, qu'ils veulent tous sortir alors que les portes ne sont pas ouvertes.
Dans les starting blocks, on dirait des chevaux, vous savez, sur une course hippique.
Ah
là.
Mais c'est impressionnant. Mais c'est... Et puis des fois, ils deviennent même agressifs. Et donc j'ai voulu faire vite en sortant ma valise du compartiment. Là, qu'on appelle ça des soutes, et en fait, en relâchant la valise qui pesait une tonne, je me suis arraché un muscle.
Aïe.
Donc j'ai un bras un peu handicapé, mais ça ne nous empêche pas d'enregistrer aujourd'hui dans les conditions du direct,
comme d'habitude. Merci
au cabinet médical
de ce partage
de l'hippodrome.
Alors, on est effectivement, mon cher Vincent, dans votre cabinet. Vous êtes venu au studio quelques fois et on alterne parce que c'est vrai que votre mission, quand même, c'est de soigner. Vous avez beaucoup de patients,
ouais.
Donc merci de m'accueillir dans ce.
Ben, je privilégie quand même
l'argent.
Bah non, si je privais l'argent, j'arrêterais le cabinet parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable pour un médecin.
Je
privilégie ma passion.
Mais oui, la passion, la santé.
La santé intégrative, la santé fonctionnelle. Et donc je suis quand même présent au moins 2-3 jours à 4 jours par semaine, et ce qui explique que j'ai pas beaucoup de temps pour aller dans vos superbes studios à Cannes.
Alors dites-moi, on va remercier notre partenaire laboratoire COPMED qui nous soutient, et merci à eux, spécialistes de micronutrition, phytothérapie, les compléments alimentaires, c'est de la qualité, c'est des synergies, travailler avec des experts de santé au top pour justement voilà, une meilleure action de tous ces compléments qui sont devenus un peu indispensables aujourd'hui pour la santé. Et je le dis en préambule, évidemment les compléments ne se substituent pas à des médicaments, et avant de démarrer toute complémentation, renseignez-vous auprès de votre professionnel de santé qui lui s'y connaît, qui vous fera faire les bilans nécessaires. Vous voyez là, on est dans il faut répéter ça parce que les compléments alimentaires, c'est pas anodin, il y a une action, mais il faut aussi que ce soit adapté pour nous. On remercie également notre partenaire
Synamief.
Non, c'est pas lui. J'étais parti pour dire d'autres choses, mais non. On
parle du Nutri-Talk. Je vais
dire Nutri-TV. Nutri-Talk. Non, allons-y, parce qu'on a quand même une émission à faire.
On est une page pub. En fait on fait que la promo, c'est ça?
Voilà.
C'est une...
Non, on fera la promo. Vous savez quoi? On fera la promo en fin d'émission. Pour l'instant, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent.
On a un sujet à traiter.
Et parfois, nous disent qu'on digresse, surtout moi. Donc là, c'est parti. Hop, non, je plaisante.
Focus.
Qu'est-ce que vous avez mangé, Smith? Parler de l'histamine.
Et ben voilà.
On en a déjà parlé sur Nutri Radio, mais c'est aussi important de voir et de connaître l'angle et votre approche, l'approche individuelle de chaque professionnel de santé d'ailleurs. Donc l'histamine qu'on décrit comme un médiateur un peu de l'allergie.
Oui, on peut le présenter comme ça.
Ou pas,
on va dire.
Ou pas.
Alors, c'est pas que ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand nous mangeons ensemble, puisque on va raconter notre vie privée.
Cette émission a été enregistrée aux alentours, mesdames et messieurs, puisque là, vous nous écoutez sur le live, il est à peu près 9h05.
Non, c'est pas au petit déjeuner qu'on s'est vu.
Bon, allez-y.
On parlait d'histamine, et parce que j'ai de plus en plus. Alors, c'est pas un effet de mode. Déjà, je voudrais vraiment rassurer, expliquer. remarquer aux auditeurs qui souvent pensent qu'il y a des modes comme ça dans la santé. Non, malheureusement, la santé, ce n'est pas un effet de mode. La santé, elle est réelle. Elle est liée à notre environnement, notre mode de vie, notre alimentation, les perturbateurs endocriniens chers à M. Christian Vélo, etc. etc. Donc, il n'y a pas d'effet de mode en nutrition et en médecine fonctionnelle. C'est tout simplement un constat. Et c'est surtout que les recherches scientifiques progressent et avancent et que de plus en plus, on sait que les manifestations, j'allais dire immuno-allergiques, ne sont pas que médiées, comme on l'a cru pendant des années, par une immunoglobuline qu'on appelle IgE, les immunoglobulines E. C'est vrai que les allergologues sont toujours un petit peu restés 30 ans, 40 ans en arrière avec ces histoires de désensibilisation et de tests cutanés pour vérifier s'il y avait des allergies ou pas à certaines substances exogènes. Depuis, ça a beaucoup évolué. On sait qu'il y a des médiateurs très importants qui modulent notre état immuno-inflammatoire et en particulier l'histamine. C'est pour ça que je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce sujet. J'ai eu la grande chance et le plaisir de partager une journée complète de formation sur l'histamine avec mon amie Lucie Wechoko, qui m'a dédicacé son remarquable livre qui s'appelle « L'histamine, l'incontournable en prévention et thérapie ». Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on l'invite ici sur le plateau de Nutri Radio.
Quand elle veut.
Ça serait vraiment un plaisir. Je sais qu'elle a un emploi du temps, elle aussi, très chargée. Et en lisant son livre, je lui ai dit, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont très pertinentes dans son analyse. Alors, tout n'est pas lié qu'à l'histamine, il ne faut pas faire de raccourcis, mais on sait que beaucoup de symptômes, maux de tête, chute de tension, démangeaisons, troubles dermocutanés, les écoulements nasaux, les conjonctivites, les troubles digestifs, la fatigue chronique, les acouphènes, les hypo ou les hyperacousies, les troubles de la vue, enfin bref, on pourrait faire une liste comme ça de 3-4 pages. Ça peut effectivement nous évoquer. En tout cas, nous, maintenant, dans notre démarche, on peut réfléchir à une éventuelle hypersensibilité ou intolérance à l'histamine. Alors, c'est pas vraiment, ça rentre pas dans le cadre des allergies, parce que les allergies, c'est quelque chose d'assez rapide. Vous êtes au contact, je sais pas, de poils de chat ou d'un Vincent Renault, ou vous prenez un médicament et une heure après, boum, vous avez une éruption de boutons, vous avez la langue qui gonfle et vous commencez à vous asphyxier ou à étouffer. Ça, c'est des réactions évidemment instantanées qu'on peut attribuer à des mécanismes allergiques de type IgE, médié par de l'histamine, IgE, donc immunoglobuline E. Nous, on parle d'histamine de manière chronique, c'est-à-dire que l'excès d'histamine dans le sang et dans l'organisme, qui théoriquement doit subir des voies d'élimination et de détoxication au niveau digestif et hépatique, qui ne se fait pas suffisamment, va poser des problèmes au niveau de nos symptômes fonctionnels. Et on est bien sûr, dans cette approche fonctionnelle, intégrative et préventive. C'est pour ça que c'est important d'aller rechercher, devant tous ces symptômes que j'ai énumérés tout à l'heure, s'il n'existerait pas une relation avec un excès soit de production endogène d'histamine. On va voir que l'histamine, c'est pas que apporté par l'alimentation, il y a aussi une production endogène, soit par peut-être une alimentation une flore intestinale plutôt, un microbiote qui ne permettrait pas de dégrader et d'éliminer en quantité optimale cette substance qu'on appelle neuromédiateur, qu'on appelle l'histamine, qui est une substance extrêmement immuno-inflammatoire lorsqu'elle est mal dégradée par la flore intestinale et qu'elle passe dans le sang.
D'accord, mais ça veut dire production endogène, selon ce qu'on va manger ou selon notre métabolisme, on va en produire plus que nécessaire et donc on va être inflammé.
C'est pas tout à fait ça.
D'accord, merci.
Je me suis mal exprimé. La production endogène, ça veut dire que l'histamine est naturellement produite par les cellules de l'immunité.
Ouais.
Alors, j'ai la liste un petit peu des cellules immunitaires. Là, je feuillette mon anti-sèche, le livre de Lucie que j'embrasse. Il y a les cellules basophiles, les mastocytes et les globules blancs en particulier produisent de l'histamine pour nos défenses immunitaires. Vous êtes, par exemple, piqué par un insecte.
Oui.
Un gros moustique. Un moustique tigre.
Oui.
Voilà. Vous allez avoir une éruption cutanée, ça va vous gratter, ça va vous démanger. Une petite boursouflure, une petite boursouflure, et une rougeur. Ça, c'est le limoncello, excusez-moi.
Dites-le 10 fois de suite. D'accord.
Une boursouflure. Ça, c'est une dégranulation de certaines cellules, en particulier les mastocytes, qui libèrent de l'histamine et qui va provoquer une réaction immuno-inflammatoire qui prévient l'organisme et le système immunitaire qu'il se passe quelque chose. Okay. Donc l'histamine, là, elle est nécessaire pour, on va dire, un médiateur chimique qui informe le corps qu'il se passe quelque chose au niveau d'une réaction. Vous éternuez parce que vous avez, je sais pas, vous êtes en contact avec
du pollen,
des cyprès, des graminées, etc. C'est pareil, vous avez une dégranulation excessive de certaines cellules de l'immunité, en particulièrement les mastocytes, et ça c'est physiologique à un niveau plus ou moins important. Il y a des personnes qui sont peu sensibles à l'histamine et d'autres qui sont hypersensibles à l'histamine, et ça, ça va dépendre évidemment de notre terrain. Et c'est là que, évidemment, l'alimentation va rentrer en ligne de compte par rapport à cette hyperstimulation de l'histamine.
Donc ça veut dire que l'alimentation joue un rôle crucial sur les allergies.
Exactement. Va potentialiser l'effet de l'activité naturelle et endogène de l'histamine.
Et ben vous nous direz tout à l'heure ou dans une prochaine émission quels sont les aliments à favoriser. Et puis aussi, on parlera de compléments alimentaires. Quels sont les actifs naturels qui peuvent nous aider, nous soutenir
Dans cette démarche,
parce que alors quand on est allergique, évidemment, on consulte son professionnel de santé qui va nous donner
et son allergologue.
Et attention, ne faites pas l'erreur que chacun fait. Le rendez-vous pour l'allergologue, je me demande si même maintenant c'est pas trop tard. Normalement, il faut prendre rendez-vous.
Ouais, c'est 6 mois de délai pour un rendez-vous avec un allergologue. Le problème, c'est qu'il ne connaît pas forcément cette histoire d'histamine. C'est pour ça que je voulais faire une.
Allergologue qui ne connaisse pas. C'est vrai.
Non, il fait pas les tests que nous pratiquons en médecine fonctionnelle. Il y a deux approches. Nous, on fait plus une approche préventive, et je pense que l'allergologue, il reste encore dans cette médecine de pompier.
Si vous ne l'avez pas dit 10 fois, ça
Mais j'étais médecin capitaine des pompiers pendant 3 ans. Donc je sais ce que c'est que la médecine de pompiers. J'ai été urgentiste. Mais c'est clair qu'il faut des allergologues. Ils sont indispensables dans le parcours santé. Oui. Mais ils
ne
vont pas forcément toujours au bout de la recherche, de l'enquête policière pour savoir d'où viennent les éruptions cutanées, les symptômes fonctionnels que nous présentons.
On va en reparler dans un instant, et évidemment je fais une petite boutade sur les allergologues, mais évidemment qu'ils sont nécessaires, et c'est vrai qu'on aimerait avoir
d'ailleurs c'est un problème. On en est plus.
Non, mais c'est un problème. Je vais vous dire, les professionnels de santé, les spécialistes, il faut qu'on ait plus de tout. Ce qui manque de tout. Donc, on parle même pas des dermatologues et autres, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous chez son professionnel de santé. Voilà, j'avais envie de dire.
on les embrasse, les allergologues.
Non, mais ils ont du boulot. Enfin, attendez, ils vont pas se démultiplier comme ça. Mais,
tout à fait. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de solutions.
Oui.
C'est en allopathie, moi j'ai été 10 ans médecin de campagne, allopathe, oui.
On se retrouve après.
Et c'est vrai que j'étais un peu frustré de ne pas avoir d'autres solutions, et c'est là que nous allons apporter des réponses nouvelles par la médecine fonctionnelle dans ces problèmes immuno-allergiques.
C'est bon, allez, petite pause.
Coupé.
Et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio.
En plus de 30 ans, les laboratoires COPMED se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Et on parle de l'histamine avec le docteur Vincent Renaud sur Nutri Radio. On est dans son beau cabinet. Il nous reçoit comme ça parce qu'il n'a pas le temps de se déplacer. Les patients, les bouquins, les recettes de cuisine, préparation de plein de choses. C'est pas de la radio, c'est pas de la télé, c'est de la radio. Et il se laisse pousser un peu le bouc. Ça vous va bien? Ce petit bouc.
Il paraît. Alors, c'est un pari qu'on a fait avec mes enfants, parce que nous allons voir. Je suis un passionné de rugby pour mes auditeurs qui ne le savent pas.
Et donc, vous allez voir prochainement un match dont on taira la date et le lieu.
On ne sait pas la date et le lieu, mais je suis passionné de rugby, sachez-le. Et le bouc me va pas du tout.
Si, ça vous va bien.
Ça me va bien.
Ouais, franchement,
oui, ma femme trouve que ça donne un petit style un peu clowné.
Bah oui, c'est vrai. Et non pas clownesque.
Clownesque.
George. Elle vous a dit c'est clowné ou c'est clownesque?
Oh George.
Non, ça vous va bien.
Fais-moi un expresso, George.
On parle de l'histamine avec vous. Dites-nous.
J'ai pas pu terminer. Vous m'avez fait.
Pardon, il y a une petite pause. Vous savez, les médias. Alors, juste, on va recontextualiser pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. On parle de l'histamine. Pourquoi certaines personnes vont réagir de manière excessive à cette production endogène d'histamine qui est générée par une exposition, soit à du pollen, soit à une piqûre de moustique. Enfin voilà.
Oui,
on va surréagir pourquoi l'alimentation
à des crèmes, voilà, à des aliments ou à différents types de substances exogènes qui provoqueraient ces manifestations avec un excès d'histamine. Alors, j'ai pas terminé parce que les cellules productrices et qui sécrètent l'histamine, j'ai dit les cellules basophiles, les mastocytes, les globules blancs en général, mais il y a aussi les plaquettes qui peuvent produire d'ailleurs de l'histamine. On a certaines bactéries, des parasites, des champignons produisent aussi de l'histamine. D'ailleurs, dans les parasitoses, dans les dysbioses, on va le voir, ou dans les candidoses, on a un excès d'histamine. D'ailleurs, c'est très lié. Hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui souffrent de candidose chronique, mais ça n'existe pas, je crois, la candidose chronique.
Oui, il paraît que ça n'existe pas.
Ah oui, c'est une invention des naturopathes ? C'est pas vrai. Oh, bah alors,
il y a une privée joke. Mesdames, messieurs, ne pensez pas que Dr Vincent Renaud pense ce qu'il dit.
Alors, on va pas parler de candidose, on va parler de dysbiose fongique, ça sera plus simple. On a aussi beaucoup d'histamine produite par les cellules de la peau, qu'on appelle les kératinocytes, ce qui peut expliquer l'urticaire, l'eczéma, le psoriasis, le dermographisme, c'est-à-dire que quand vous avez des démangeaisons partout dans le corps et quand vous vous grattez, ça laisse des traces rouges sur la peau. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé.
Mais toujours.
Alors, toujours rechercher quand même une parasitose ou une candidose, j'allais dire, ou une dysbiose fongique, lorsqu'on a des manifestations, du coup, immuno-allergiques. On en a, bien sûr, dans les cellules vasculaires, les cellules endothélium, ce qui explique que quand on a un choc anaphylactique, un excès d'histamine, on peut faire des chutes de tension, des hypotensions. On en a aussi dans les cellules de l'endomètre, chez les femmes, donc au niveau utérin. Ça peut provoquer des syndromes prémenstruels. On sait que, par exemple, pendant les règles, les femmes ont beaucoup plus d'histamine qu'en dehors des règles, ce qui fait qu'elles vont déclencher des manifestations immunoallergiques beaucoup plus importantes.
Et ça voudrait dire qu'elles excusez-moi, je vais peut-être vous poser une question bête, mais ça voudrait dire que pendant la période des règles, elles devraient prendre des
Certaines prennent des antihistaminiques.
D'accord.
Ah oui, okay. Oui. Il y a des femmes et elles me disent ça me soulage mon SPM, qui veut dire syndrome prémenstruel. Je traduis.
Oui, bien sûr. Ah, vous êtes sur Nutri Radio quand même. Hein.
Oui, on a un auditoire
exigeant.
Très expert. On a des personnalités expertes qui nous écoutent, mais je préfère traduire SPM. Souvent, on dit oui, vous voulez médecin, vous avez des discours hyper compliqués, vous utilisez toujours des raccourcis.
Anaphylactique, vous avez dit.
Choc anaphylactique. Pas anaphylactique.
Anaphylactique.
Ah, voilà.
Un effet d'optique.
Bref, toujours est-il que cette histamine, elle existe en quantité assez importante dans le corps. Et lorsque on rajoute évidemment un excès d'histamine par l'apport exogène, cette fois-ci on n'est plus dans l'endogène, c'est plus une fabrication autonome, c'est aussi un apport extérieur. Et que si on n'arrive pas à réguler cet apport de manière importante, et l'accumulation entre endogène et exogène peut provoquer, dans certaines situations, tout le monde n'a pas des manifestations immuno-inflammatoires comme j'ai décrit, mais dans certaines situations, souvent il y a un contexte émotionnel fort, il peut y avoir une exposition aussi forte à certains aliments histamino-libérateurs, plus une prédisposition un petit peu génétique, et ça peut faire un cocktail toxique qui va déclencher des manifestations dont j'ai parlé, des maux de tête, des étourdissements, des chutes de tension, des malaises vagaux, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est toujours très difficile d'identifier une intolérance à l'histamine juste sur les symptômes cliniques, parce que ces symptômes sont extrêmement polymorphes. Alors comment l'histamine est produite au niveau du tube digestif ? Alors il faut savoir que l'histamine, c'est un produit dérivé d'un acide aminé qui s'appelle l'histidine. Et l'histidine, on la trouve dans la plupart des protéines alimentaires, végétales ou animales, peu importe. Et on va dire qu'au moment de la phase d'absorption, cette histidine, qui est un composé naturel des protéines, va subir différentes phases de dégradation. Déjà, vous avez l'acidité gastrique qui sert à dégrader une partie des protéines alimentaires, à dégrader les polypeptides en oligo, voire en monopeptides. Donc ça veut dire que déjà l'acide aminé, l'histidine, va commencer évidemment un petit peu à s'activer. Ensuite, dans l'intestin grêle, on a des enzymes, des pepsines, des protéases, etc., qui vont continuer à découper ces polypeptides en monopeptides. Et après, les acides aminés qui n'auront pas été absorbés vont plus ou moins se transformer en histamine, l'histidine se dégrade en histamine, histidine, histamine, sous l'effet d'une enzyme, l'histidine décarboxylase. Histidine décarboxylase, ça vous parle ?
Mais évidemment, je ne pense qu'à ça, moi.
C'est HDC, cette histidine décarboxylase, elle peut être activée par certaines bactéries, en particulier des bactéries de putréfaction, et c'est pour ça que quand on a des manifestations immuno-inflammatoires, on fait d'abord un bilan du microbiote pour rechercher des bactéries qui pourraient être, qui pourraient favoriser la production d'histamine. Donc déjà, quand on a un excès d'histidine décarboxylase, on va augmenter le pool d'histamine pour, qui va effectivement être ensuite absorbé par l'organisme. Mais heureusement, nous avons des moyens d'élimination et de détoxication. C'est-à-dire que l'histidine se dégrade en histamine et ensuite l'histamine, elle va être dégradée par différents mécanismes. Et dans l'intestin, on a un acteur très très important qui est la DAO, la diamine oxydase. Cette enzyme, elle est extrêmement importante puisque c'est elle qui va découper l'histamine, qui va détoxifier l'histamine en différents dérivés non toxiques permettant d'éviter que le corps absorbe en quantité importante de l'histamine et que le patient devienne potentiellement hypersensible à l'histamine par un défaut de DAO. On sait qu'il y a des personnes qui génétiquement fabriquent peu de DAO, donc on a des polymorphismes génétiques qu'on peut rechercher par des analyses biologiques grâce à des laboratoires experts en biologie fonctionnelle.
Ce n'est pas tous les laboratoires qui font ce...
Alors, maintenant, les laboratoires type Eurofin, Cerba, Synlab, Barla, etc.
C'est Barliance.
Cerballiance, oui, j'ai dit Cerba. Cerballiance,
ah
oui, c'est pareil.
Ah ouais, vous faites le d'accord, ok. Cerba.
Ah,
okay.
Cerba, c'est mes potes. Okay. Tous les labos en France, globalement, à part un ou deux qui m'ont refusé l'analyse, peuvent mesurer l'activité de cette DAO.
Ah, ok.
Il y a un deuxième marqueur très important, c'est doser l'histamine fécale. Parce que si vous avez un taux d'histamine fécale très élevé, ça veut dire que la dégradation de l'histamine ne se fait pas bien. Et cette dégradation, elle se fait en partie par cette enzyme DAO, mais aussi via la flore intestinale qui va dégrader cette histamine qu'on appelle des amines biogènes via notre flore de putréfaction. C'est-à-dire qu'au niveau du côlon, si l'histamine n'a pas été éliminée en quantité suffisante par cette enzyme DAO au niveau du grêle, donc là on est à l'étage au-dessus, c'est la flore intestinale qui va prendre le relais et qui va dégrader les résidus protidiques, les acides aminés, on va dire, qui n'ont pas été absorbés durant la phase digestive du grêle. Et par des mécanismes de détoxication au niveau des bactéries, nous allons dégrader certains acides aminés sous forme d'amines biogènes. L'histamine fait partie de ces amines biogènes, mais il y a la tyramine, la cadavérine, la spermidine, la putrécine, la tryptamine, la dopamine, etc. Toutes ces substances sont dégradées par la flore protéolytique au niveau
du côlon. Parce que là, vous nous sortez, là, c'est une masterclass que vous nous faites, mais pardon, quelles sont les conséquences de cette mauvaise dégradation de l'histamine?
Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça veut dire qu'on va avoir des selles un peu non moulées, des maux de ventre, des spasmes, des colites, de l'inflammation. Et l'excès d'amine biogène est pas bon du tout pour l'épithélium colique. Ça va générer l'apparition de polypes, d'inflammation, d'hyperporosité intestinale, ce qu'on appelle une dysbiose de putréfaction. Et ça peut aller jusqu'au SIBO. Et on sait qu'en général, les gens qui souffrent de SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrow, que ce soit des SIBO hydrogènes, méthane ou H2S, c'est-à-dire hydrogène sulfureux, c'est un marqueur très, 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 très prononcé d'une intolérance à l'histamine. Toutes les personnes qui ont un SIBO, que je connais, que je soigne, ont une intolérance à l'histamine parce que la flore ne détoxifie pas bien l'histamine et la DAO, qui est l'enzyme qui détoxifie, ou en tout cas qui élimine l'histamine en excès, ne fonctionne pas bien.
Très bien, on va continuer cette émission la semaine prochaine, mon cher Vincent Renaud, parce qu'il y a plein d'autres questions à vous poser. On va pas faire une seule émission sur l'histamine, ça mérite notamment d'avoir des solutions, des approches. Quelle est l'alimentation
Quelles sont les sources déjà alimentaires d'histamine?
Les sources alimentaires, évidemment,
puisque
et puis l'alimentation aussi.
La prévention et la prise en charge chez ces patients, ça va être de réduire ces sources exogènes d'histamine.
Déjà réduire, et puis il y a peut-être aussi des aliments qui vont...
Et des aliments santé.
La fabrication endogène d'histamine ou...
Mais... Et bien sûr.
Et puis les compléments alimentaires, on va parler aussi de la DAO, est-ce qu'on peut supplémenter en DAO? Enfin, plein de questions qu'on étudiera et qu'on a hâte
tout
de vous écouter là-dessus
tout
la semaine prochaine.
Fabrice.
Non, moi c'est René.
Jean-Paul.
C'est René.
Non, c'est Curté.
Appelez-moi Jean-Paul Curté. Non, alors, puisque c'est la fin de l'émission, j'en profite. Deux événements à ne pas rater. Le premier, je le dis parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est le Nutritol Gala le 13 juin prochain à Paris. Et en fait, on vous organise, pour tout vous dire, une espèce de...
Un événement exceptionnel.
De week-end de santé intégratif qui aura lieu, qui va se dérouler vendredi et samedi. Voilà, ce sont deux jours avec d'abord le congrès du CINAMIEF qui est le syndicat présidé par Vincent Renaud dédié à la médecine fonctionnelle avec plein de sujets et plein de thématiques
intéressantes. Des sujets passionnants, des intervenants.
On mettra un lien sur le site. site.
Voilà, on mettra le lien du programme du...
C'est la journée du vendredi.
Ça s'appelle les premières rencontres du Cinémief.
Voilà, et l'année prochaine, ça s'appellera les deuxièmes rencontres du Cinémief.
Non, on aurait pu dire congrès, symposium.
Ouais, non, mais c'est bien
et en fait,
ça marche moins bien la deuxième année, je vous dis. Ça marche moins bien la deuxième année.
Deuxième rencontre ?
Non, les premières rencontres, quand il faudra vous changer de nom, quoi. C'est ce que je veux vous dire.
Oui, alors là, monsieur spécialiste de la com, non, mais bon.
Mais si dans 10 ans, vous dites les premières rencontres du Cinémief, ça n'a pas de sens.
Mais c'est des rencontres, c'est-à-dire que vous êtes tous invités.
Voilà, tout le monde peut venir.
Il n'y a pas de limite, médecin,
non-médecin.
C'est gratuit,
vous êtes invité, c'est gratuit. Non. Par contre, le Nutrito Gala,
il y a
eu
une participation parce qu'il y a évidemment, on fait appel à un traiteur, 5 étoiles. Et effectivement, il faut bien
nourrir. Par lettre P, P-I-C.
Non, il faut bien nourrir les personnes qui viennent assister à ces rencontres.
Vincent.
Oui, parlez de votre événement,
non,
je sais.
Non, beau week-end. Non, je ne veux pas rentrer dans le détail du Nutrito Gala. Simplement, allez sur le site de Nutri Radio. On vous mettra les détails de ce congrès du Cinémief, celui du Nutrito Gala. Mais en gros, réservez dans votre agenda les 12 et 13 juin. L'expérience, elle peut être exceptionnelle, puisque les gens que vous allez croiser le vendredi, vous pourrez les recroiser le samedi. Et c'est très complémentaire avec un côté réglementaire, médecine, santé, et puis le futur aussi de cette médecine. Certains appellent d'ailleurs c'est la médecine de demain, alors que ça fait un moment qu'on y est.
Alors,
le lendemain, le Nutrito Gala, où là on est sur un sujet qui est très ciblé, puisque la thématique c'est métabolisme, longévité et hormones. Donc vous voyez, c'est à ne pas rater les 12 et 13 juin. Merci.
Ben, je serai présent aux deux événements, je vous rassure.
Mais oui, vous êtes
donc
invité.
Comme ça, je serai invité au Nutritalk.
C'est en négociation.
En négociation. Non, je veux dire, le Cinémief, le thème, ça s'appelle Y a-t-il un avenir à la médecine fonctionnelle et à la santé
je crois
intégrative
que c'était, Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Y a-t-il un pilote? Non, mais il faut vraiment se poser la question quand on voit aujourd'hui les associations qui se ligue contre nous et qui voudrait un petit peu nous empêcher de communiquer.
Et la question, c'est pourquoi ?
Et oui, pourquoi ? Pourquoi ? Y a-t-il un complot derrière tout ce stratagème ?
Merci à tous de nous avoir écoutés. Peut-être que vous n'êtes déjà plus là parce que l'émission, là, ça fait 5 minutes que ça ne vous intéresse plus du tout. On se retrouve la semaine prochaine.
Musique !
D'histamine, c'est le retour de la musique si vous êtes sur le live de Nutri Radio. Et puis, sinon, si vous êtes en podcast, pensez à vous abonner, à partager, bien évidemment. À la semaine prochaine.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.